Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
Bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média 1, Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous aurons l'immense plaisir de recevoir Shakir Acharhab qui nous parlera de son nouveau projet, un film, son tout premier long métrage baptisé Nostalgia Beach. Et il sera avec nous pour nous parler de cette œuvre qui tourne autour de la mémoire, de l'identité et des souvenirs. Sinon, nous aurons également l'immense plaisir de recevoir Jessica Mouisa, une militante de la mémoire, de l'identité. Elle est franco-rwandaise, petite fille de victime du génocide Tutsi. Elle travaille à la protection de la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Depuis 10 ans, on reviendra avec elle sur ce sujet. Et nous parlerons également cinéma avec le disqualifié deuxième long métrage documentaire du Tunisien Hamza Ouni qui a fait sa première mondiale, je le rappelle, dans la section Burning Lights de Vision du Réel où il a décroché une mention spéciale, un film tourné pendant 12 ans. Nous reviendrons sur cette prouesse et sur le portrait de Mehrez, le personnage principal. Et comme promis tout à l'heure, place à Jessica Mouisa, une militante de la mémoire. Petite fille de victime du génocide rwandais, elle travaille pour perpétrer cette mémoire, pour ne pas oublier surtout pour la protection de cette même mémoire, celle du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Depuis 10 ans maintenant, elle lutte jour et nuit. D'ailleurs, elle a décidé de revenir vivre au Rwanda depuis quelques années maintenant.
Ça a été un cheminement très très long, je suis pas sûre de totalement le comprendre encore, mais j'ai essayé de beaucoup faire pour la lutte contre toutes les racialisations, tous les racismes en France. J'ai fait des efforts, que ce soit dans le milieu activiste, associatif, professionnel, et j'ai toujours eu l'impression de n'être que tolérée dans ces milieux-là. Quelle que soit la région, dans le sud de la France, c'était difficile. Quand j'ai déménagé en région parisienne, c'était difficile. Mmh. Et j'ai eu l'impression que malgré tous les efforts faits, lire des livres, les expliquer aux gens, faire des fiches de lecture, faire des conférences, en fait, la majorité de la société n'arrivait pas à avoir l'empathie que moi, je juge nécessaire pour notre histoire. Et donc, j'ai fini par tirer la conclusion suivante. Ce n'est qu'en étant avec les miens, au Rwanda, avec les personnes concernées, réellement impliquées pour la préservation de la mémoire et la lutte contre le racisme, que je pouvais vraiment faire quelque chose, en fait, agir et avoir un impact.
Donc c'est un choix très personnel et c'était plus un besoin.
Oui, un besoin pour moi, mais aussi pour la lutte. C'est vraiment lié.
D'ailleurs, votre thèse est entièrement basée sur ça, Jessica, puisqu'il est question bien de ces thématiques, donc Rwanda est racial et ethnique.
Mmh, c'est ça. Parce qu'en fait, comme j'ai réussi à réfléchir sur mon propre cheminement identitaire, de métis ayant grandi en France, avec une maman rwandaise. Vous savez, les premières fois, ce n'est pas moi qui ai cherché cette réflexion, c'était plus certains Français qui me disaient des phrases comme « Mais toi, tu viens d'où? T'es d'où ?» Et donc, quand je répondais « Je suis française et rwandaise », très souvent, on m'a répondu « Ah, mais vous, c'est les sauvages, le génocide, vous vous êtes entretués. » Et donc, ces questions-là étaient très douloureuses. Et donc, mon cheminement identitaire s'est fait un peu sous la contrainte, avant que je reprenne du pouvoir dessus. Et je me suis posé la question, mais comment on fait les jeunes Rwandais, ayant vécu au Rwanda toute leur vie, pour traverser ces mêmes problématiques, en fait? Et donc, c'est ma principale question de recherche. Quel est le cheminement identitaire aujourd'hui des jeunes Rwandais, à une époque où les distinctions ethniques ne sont plus tolérées au Rwanda? On a vraiment essayé de collectivement rappeler que Hutu, Tutsi, Twa, ce sont des catégories socio-économiques avant la colonisation. Mmh. Et elles ont été racialisées. Elles ont été transformées en véritables races dans un but de diviser pour mieux régner. Et donc, les jeunes Rwandais aujourd'hui grandissent avec la vraie version de l'histoire. Tout le monde est Rwandais. Hutu, Tutsi, c'était comme être riche, être pauvre. Oui. Avoir des vaches, ne pas avoir de vaches. Et donc, c'est toute une déprogrammation qu'il faut faire, génération après génération, pour réellement réussir à enlever ces idées des esprits.
Et je voudrais savoir, vous voilà cette question de la mémoire du génocide des Tutsis, ne pas oublier, transmettre, alerter les gens, voilà, les éduquer en quelque manière. Et est-ce que vous voyez chez ces jeunes gens, chez ces trentenaires qui n'ont pas vécu le génocide, ces mêmes recherches, ces mêmes questionnements, c'est quelque chose vraiment qui vous est propre? Est-ce qu'il y a d'autres gens que vous avez rencontrés et qui sont hantés par cette question? Ou est-ce qu'il y a un déni?
Oui, tout le monde est concerné, je pense. Vraiment tout le monde, parce que ma recherche, elle porte plus sur les 18-25 ans.
D'accord.
Et ces jeunes-là, quand ils approchent des 20 ans, ils disent « Ok, j'ai grandi sans me poser ces questions et en observant les adultes plus âgés se comporter de manière un peu bon, énigmatique. » Et vraiment, quand ils atteignent les 20 ans, ils commencent à se poser la question parce qu'ils comprennent la chance qu'ils ont de grandir dans une société qui est en paix.
Oui.
Et en même temps, ils se questionnent, ils se disent « Mais il y a 30 ans, on nous explique qu'il y a eu ce terrible événement. Maintenant, nous sommes en paix. Bon, qu'est-ce qu'il faut désormais pour maintenir cette paix, pour que réellement ça ne se produise plus jamais ?» Et donc, ils commencent à se poser la question aux alentours des 20 ans. Et pour l'instant, je trouve que lorsqu'ils atteignent les 23, 24, 25 ans, ils sont très impliqués vraiment pour que l'identité « nous sommes tous Rwandais » soit primordiale dans la société et que les divisions cessent.
Pour se réapproprier leur identité originelle en quelque sorte.
Exactement.
Merci en tout cas beaucoup Jessica d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé du génocide des Tutsis. Ça fait 30 ans déjà. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir Jessica, merci. Et après avoir parlé du génocide rwandais et de l'importance de la mémoire pour perpétrer cette mémoire et ne pas oublier le génocide contre les Tutsis perpétré au Rwanda en 1994, tout de suite eh bien, nous parlons cinéma avec le disqualifié deuxième long métrage documentaire du Tunisien Hamza Ouni qui a fait sa première mondiale, je le rappelle, dans la section Burning Lights de Vision du Réel où il a décroché une mention spéciale. Le disqualifié est un film honnête dans lequel on suit Mahrez qui est ici le personnage principal, un homme tourmenté. Il a 25 ans qu'on commence le documentaire en 2005, au moment où Ouni se met à le filmer pour continuer de le suivre pendant 12 ans. Notre héros vit dans la bourgade de Mohammedia, non loin de Tunis, et dirige une compagnie amateur qui fait du théâtre, de la danse. Il joue au centre culturel local, du moins jusqu'à ce que le gouvernement ne le ferme. Le disqualifié de Ouni qui tire le meilleur profit de cet homme, de ce jeune homme au début qui n'a que 25 ans en 2005, un homme charismatique, créatif et rebelle et qui inspire ses amis et ses collègues. Il faut dire qu'en eux tous brûle ce désir, cette envie de liberté qu'il parfois remplace par le jeu ou l'addiction à des substances illicites. Dans le disqualifié, on parle aussi d'art, de théâtre, de rap, un style de vie qui va finir par pousser Mahrez à un point de rupture quand il se retrouve à passer un an en prison pour consommation de cannabis. L'homme qui ressort de prison n'est plus du tout le même. C'est un homme fatigué, avec une barbe, une dent en moins et un regard là. Mais il semble qu'il n'ait rien perdu, en tout cas de son énergie, de sa rage de vivre. Il a aussi, cette fois-ci, une petite amie très belle, mais également très jalouse. Avec le disqualifié, Ouni se bat contre l'inertie et le fatalisme présent chez la jeunesse tunisienne et qui est métaphorisé sous l'apparence de Mahrez. Avec sa caméra, Ouni semble suivre Mahrez en lui disant, en lui murmurant de ne pas perdre espoir et de toujours croire en l'avenir. Et après avoir parlé cinéma avec Hamza Ouni, on continue de parler cinéma cette fois-ci avec Shakir Ashahbar. Il est réalisateur et son film, son premier long métrage, donc Nostalgia Beach, sortira sur grand écran au Maroc à partir du 10 juillet. Une occasion en or pour le recevoir et pour vous parler de ce projet qui lui tient particulièrement à cœur, un sujet qui tourne autour de l'identité, de la mémoire, de comment notre cerveau marche, des souvenirs. On l'écoute tout de suite.
Alors, nostalgia, bien sûr, la nostalgie est généralement liée à un lieu. Dans ce cas de figure, c'est le beach, c'est la plage. Donc, et nostalgia fait toujours référence à des souvenirs qui sont chargés d'émotions. Et c'est justement toute la problématique qu'aborde, ou la thématique qu'aborde ce film, c'est-à-dire quelle relation il existe entre justement la mémoire, les souvenirs et nos émotions. Voilà, un petit peu un résumé de ce film.
Et d'où vous est venue l'idée de faire ce film, puisque comme vous venez de le dire, voilà, ça fait un moment. Est-ce que c'est la thématique de la mémoire? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que, voilà, d'où vous est venue concrètement l'inspiration pour faire ce film?
Ben écoutez, il y a toujours dans tous les films quelque chose qui nous revient, quelque chose de personnel. Mais en réalité, aujourd'hui, comment fonctionne le cerveau semble préoccuper beaucoup de gens. D'abord parce qu'il y a de nouvelles maladies liées au cerveau qu'on connaît mieux maintenant et qui préoccupent, j'imagine, beaucoup de gens. Beaucoup de gens se posent ces questions. Comment est-ce que mon cerveau fonctionne? Si je devais, par exemple, demain me réveiller en ayant oublié que j'ai une femme et une fille, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que je serais capable de maintenir cette relation avec cette femme et cette fille dont j'ai oublié tous les souvenirs? Voilà un peu ce genre de questions que je me pose. Bien sûr, je ne suis pas allé sur l'aspect médical ou l'aspect neurologique, mais c'est plus sur l'aspect émotionnel, réflexion personnelle que j'ai voulu aborder à travers cette histoire.
Et vous avez écrit donc le scénario de Nostalgia Beach. Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé l'écriture? Est-ce qu'elle a été longue, douloureuse? Est-ce qu'elle a été plutôt facile, fluide? Comment s'est passé le processus d'écriture?
Ben écoutez, moi je suis scénariste, mais je suis en même temps réalisateur et producteur. Et ce film a été une autoproduction, c'est-à-dire que j'ai dû réunir moi-même les moyens pour faire ce film. C'est une contrainte, mais en même temps, j'ai eu une grande liberté d'écrire et de réécrire, parce qu'évidemment, lorsqu'on s'adresse à des investisseurs, des producteurs investisseurs, on écrit l'histoire qu'on a envie de raconter sans contrainte particulière, parce qu'on pense qu'on va recevoir l'argent qu'il faut pour pouvoir produire le film dont on rêve. Mais lorsqu'on se retrouve devant la réalité de nos moyens, faire la politique de nos moyens, à ce moment-là, il faut se remettre à réécrire et évidemment n'écrire que l'essentiel de l'histoire pour pouvoir justement se permettre de tourner cette histoire. Et évidemment, tout ce qui est très cher, toutes les scènes qui auraient pu avoir une valeur de production élevée, parce que ce sont des scènes qui nécessitent beaucoup d'argent pour être tournées, généralement, on est obligé de s'en passer. Et bien sûr, on s'assure que ça ne touche pas le fond de l'histoire. On s'assure que notre histoire puisse être tout aussi touchante sans qu'on ait à utiliser les gros moyens, si vous voulez.
Et votre film sort dans quelques jours dans les salles, donc le 10 juillet. Pour le public qui voudrait aller voir donc Nostalgia Beach, est-ce que vous pouvez faire un résumé?
Oui, il s'agit à la base, il s'agit d'un drame familial. L'idée qu'un père étant amnésique, totalement amnésique, puisse revenir à ses souvenirs, est une belle idée, mais sauf que justement, il peut y avoir des surprises lorsqu'on revient on revient pas automatiquement aux souvenirs qu'on pense qui vont être les souvenirs les plus importants. On va aller vers des souvenirs anciens, vers des souvenirs qui pourraient nous réorienter dans la vie. Et c'est un peu le drame qui se passe dans cette. Sans, je voudrais pas quand même vous raconter toute l'histoire, mais. Basiquement, c'est un homme qui va essayer de lutter pour retrouver ses mémoires et évidemment retrouver par la même occasion les liens qu'il avait tissés avant de perdre la mémoire avec les membres de sa famille.
Nostalgia Beach, donc sur le grand écran à partir du 10 juillet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Shakel. Merci.
Merci à vous.
Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, tout de suite, je vous propose de parler photographie avec cette très belle exposition baptisée « Regardez-moi la photographie africaine à l'honneur » à Paris, du Mali, en passant par le Burkina Faso, sans oublier le Sénégal. Le studio photo des années 60 est devenu le berceau d'une nouvelle image portée par une nouvelle génération de jeunes photographes. Parmi eux, on retrouve le Burkinabé Sanlé Sori, qui fait figure de précurseur puisqu'il ouvre en 59 le studio Volta Photo à Bobo Dioulasso. 3 ans plus tard, à Bamako, Malixi Dibé crée lui le studio Malik. Alors les jeunes viennent y poser, c'est la période yéyé. L'humour et la fantaisie sont là omniprésents dans les clichés d'ailleurs de Sanlé Sori et Malixi Dibé, qui cherchent avant tout à retranscrire à travers l'image le sentiment de liberté, de légèreté, d'émancipation qui régnait à cette époque. Les portraits sont l'œuvre d'artistes africains soucieux de créer de nouvelles représentations en fonction des aspirations de leurs clients. Des artistes qui prêtent une grande attention, notamment au choix des toiles de fond, des costumes, des accessoires pour revivre cette période. Ça se passe à la galerie RZ à Paris, où se tient l'exposition « Regardez-moi, le rituel de la pose, le studio photo en Afrique dans les années 60-70 ». Et c'est à Paris. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que l'Afrique en culture, c'est à retrouver en avant-première sur un média podcast. Et on finit avec une pointe de musique Gnaoui. Question de rester dans l'univers du festival consacré à la musique Gnaoui, le Gnaoua Festival qui a refermé ses portes le 29 juin. Et on continue donc avec Bodhisattva et le Malem Hammam. Une superbe fusion, une très belle rencontre entre deux amoureux passionnés mélomanes. Zidlmel, c'est tout de suite. Et très bonne suite des programmes sur Média.
exclusive for Rodmas and Harry.